Bonjour à tous, bienvenue dans Confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. L'homme au cœur de ce Confidentiel est un monument. C'est un chanteur. Le nombre d'albums qu'il a vendus au cours de sa carrière ? 100 millions, oui, 100 millions. Michel Sardou, 77 ans, est plus qu'un artiste, il est la France. En tout cas, une certaine France. En 2018, il tournait dans tout l'Hexagone avec son spectacle La Dernière Danse, annoncé comme l'ultime occasion de le voir sur scène. Visiblement, Michel Sardou a du mal à dire au revoir à son public. Dans quelques jours, il sera deux soirées sur la scène de la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena. Peut-être vraiment la dernière fois. Pour comprendre pourquoi Michel Sardou a du mal avec les adieux, il faut revenir à la source même de qui est cet enfant de la balle, de sa relation avec son père, avec sa mère, avec son pays et avec son public. Alors Michel, un adieu jusqu'à la prochaine fois ? Je poserai la question dans un instant à son ami d'enfance, le chanteur et compositeur Pierre Billon. Mais tout de suite, c'est Confidentiel Michel Sardou. On est le 3 octobre 2023, au Zénith de Rouen. Michel Sardou fait son grand retour sur scène, 5 ans après ses adieux, et ce qui devait être son ultime tournée, La Dernière Danse.
Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà.
Oui, mais voilà, le chanteur, qui a 76 ans, et qui, je le rappelle, a vendu plus de 100 millions d'albums au cours de sa carrière, a choisi de reprendre la route pour un nouveau tour de piste. C'est peut-être l'ennui qui l'a poussé, sa femme aussi, Anne-Marie, qui l'a encouragé, mais c'est surtout sa relation avec son public qui l'a convaincu. Un public qui le suit avec fidélité depuis plus de 50 ans. Et cette nouvelle tournée d'adieu, Michel Sardou l'assume totalement.
« Il ne faut jamais dire jamais »,
écrit-il.
« Je n'ai jamais rien programmé. La chanson, la comédie, les amours, les amis, les emmerdes sont venus à moi sans que je les appelle. J'ai toujours vécu au jour le jour avec le hasard comme boussole. Vous m'avez manqué, alors me revoilà avec un spectacle que j'espère encore plus beau, plus spectaculaire. Adieu. » Jusqu'à la prochaine fois.
Cet adieu jusqu'à la prochaine fois, les fans le savent très bien, c'est une aubaine, un cadeau que leur fait leur idole. Une sorte de rappel. Les places de cette nouvelle tournée d'adieu se sont arrachées. 100 000 billets ont été vendus en seulement quelques heures. Michel Sardou n'est plus à une contradiction près. C'est un enfant de la balle, chanteur malgré lui. C'est un provocateur incurable qui est devenu un artiste populaire. C'est une star abonnée aux polémiques et à la réputation réac, mais il est aussi écouté aujourd'hui par les plus jeunes. Michel Sardou se sera finalement retrouvé là où on l'attendait le moins, là aussi où lui ne s'était jamais vraiment imaginé, au panthéon de la chanson française. Finalement, il aura fini assez loin du théâtre et de la comédie qui ont fait vivre modestement des générations de Sardou avant lui, dont bien sûr ses parents, Fernand, un acteur méridional qui a travaillé avec Tino Rossi ou Marcel Pagnol, et Jackie, la truculente Jackie, une véritable figure du théâtre de boulevard. À eux deux, les parents de Michel Sardou, Fernand le Provençal et Jackie la Titi parisienne, représentent cette France joviale, populaire, gouailleuse, qui enchanteront les spectateurs de l'après-guerre. Les Sardou auront longtemps couru les théâtres, les tournages et les cachets. Oui, ils ont souvent été absents. Néanmoins, ils auront donné le goût des planches au jeune Michel, même si la vie de tournée les aura souvent tenus éloignés de leur petit garçon. Il n'empêche, le chanteur répète souvent que son plus grand regret aura été de manquer ses adieux avec Jackie et avec Fernand. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il entend bien ne pas terminer trop vite son histoire d'amour avec la scène et avec le public.
Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu une autre année à un autre endroit. adieu jusqu'à la prochaine fois. Salut.
Michel Sardou, les adieux éternels, c'est tout le programme de ce confidentiel. L'enfant de la balle Michel Sardou aurait vraiment pu naître sur scène. Ce soir du 26 janvier 1947, enceinte jusqu'au cou, sa mère Jackie est à Bobigny, en pleine représentation de la comédie musicale « On a volé une étoile ». Son père Fernand, lui aussi, fait partie de la distribution. C'est donc là, sur scène, que Jackie a ses premières contractions avant d'être évacuée urgemment vers la maternité. C'était moins une. Même si naître sur scène serait sûrement la consécration ultime pour un artiste. En tout cas, Michel aura toujours vu cette naissance comme un signe du destin. Jamais il n'a envisagé une autre voie que celle de ses parents. Vous l'avez compris, Sardou est en quelque sorte tombé dans la marmite tout de suite. Lorsque Fernand et Jackie ne jouent pas, ils répètent. Et quand ils ne répètent pas, ils partent en tournée. Les coulisses deviennent la deuxième maison du petit garçon. Même si cette vie de très tôt aura forcément des conséquences, pas malheureuses, loin de là, sur l'enfance de ce fils unique, que Jackie et Fernand adorent plus que tout, mais dont ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper. Les Sardou décident de laisser leur bambin dans les bras d'une nourrice. Et voilà le petit Michel qui se retrouve dans la Meuse, sous la responsabilité d'une garde-barrière au cœur tendre, Marie. Cette femme l'aimera comme son propre enfant, et le chanteur lui dédiera bien des années plus tard une chanson. Michel Sardou dira même dans ses mémoires que le temps passé dans cette petite maison demeura le plus beau souvenir de son enfance.
Marie, ma belle, tu es ancienne, et moi le sou.
Après les tournées, quand ils sont de retour à Paris, Jackie et Fernand sont toujours aussi occupés. En 1955, Fernand Sardou signe un contrat pour jouer aux côtés de Tino Rossi dans l'opérette Méditerranée.
Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées.
Le spectacle est un triomphe. Il se jouera 11 années de suite. Et comme si cela ne suffisait pas, Fernand Sardou et sa femme ont décidé d'ouvrir un cabaret à Pigalle. Le petit Michel se retrouve alors dans une pension prestigieuse, où il côtoie le comédien Jean-Michel Ribes, l'écrivain Patrick Modiano, ou encore le futur maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Mais Michel en a rapidement marre de l'école et de la pension. Il rêve même de prendre le large et de fuguer au bout du monde. Un jour, alors que son père vient de le récupérer in extremis à l'aéroport d'Orly, où Michel était sur le point d'embarquer pour le Brésil, le ton monte dans la voiture.
Papa, je ne veux plus continuer à aller à l'école. Je veux travailler.
Très bien.
Répond Fernand.
Tu veux faire l'andouille ? Eh ben, tu vas la faire.
À partir de là, Michel travaillera comme serveur au cabaret familial. Et entre deux services, le voilà qui fait ses premières armes sur scène. Il intervient pendant les sketchs, il pousse la chansonnette et fait même une imitation de son idole, Johnny Hallyday.
Souvenir, souvenir.
Malgré ses premières expériences, Michel Sardou n'est pourtant pas encore vraiment décidé à se lancer dans une carrière de chanteur. Au contraire, lui, il se voit plutôt comédien, comme ses parents. En tout cas, à cette époque, une chose est sûre, s'il veut gagner sa vie, il va devoir travailler. Et puis même s'il n'a que 18 ans, le jeune Sardou est déjà en ménage. Dans les coulisses de l'opérette que joue son père, il est tombé amoureux de Françoise, une jolie danseuse qu'il ne va pas tarder à épouser. Simple coïncidence ou ironie du sort, pendant le repas de noces, qui se tient dans un restaurant de la butte Montmartre, le futur chanteur racontera avoir fait la connaissance de la petite fille de la patronne, une jeune fille prénommée Anne-Marie Perrier. Le futur chanteur ne lui dira jamais réellement adieu, car il l'épousera à son tour presque 35 ans plus tard.
Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme.
Mais pour l'instant, on est en 1965, et le jeune couple Michel et Françoise vivotent. Surtout que le cabaret chez Fernand Sardou vient de mettre la clé sous la porte. Les temps sont durs chez les Sardou père et fils. Jackie a dû retrouver un travail de serveuse. Et de son côté aussi, c'est Françoise, la femme de Michel, qui fait bouillir la marmite en dansant tous les soirs dans un cabaret. Michel, lui, rêve toujours de suivre les traces de ses parents en devenant comédien. Il s'est donc inscrit à un cours d'art dramatique. Et il vient même de trouver un petit rôle dans le film de René Clément, Paris brûle-t-il. Mais c'est tout juste si on l'aperçoit à l'écran. Dans sa scène, il sort d'un camion et il est fusillé sur le champ. Autant dire que les débuts sont poussifs.
Personne ne bouge ! Allez, Morgan !
Terminus, les mômes.
Alors en attendant que ça décolle côté cinéma, Sardou continue à pousser la chansonnette dans les cabarets de la butte Montmartre, comme chez Patachou. C'est là que Michel et Pierre Billon, le fils de Patachou et guitariste hors pair, se rencontreront et deviendront amis. Mais ça ne suffit plus à Sardou. Alors avec son copain Michel Fugain, ils se sont mis en tête d'écrire des chansons pour les présenter à Barclay, la fameuse maison de disques. À l'époque, régulièrement, Barclay organisait des castings pour dénicher des nouveaux talents. Les deux Michel passent une audition. Sardou au chant, Fugain à la guitare. Et étonnamment, ça marche. Barclay fait signer à Michel Sardou son premier contrat. Son destin vient de basculer. Même si tout reste à faire, ses premiers morceaux ne se vendent pas, les débuts sont franchement difficiles, Michel prend des cours de chant et puis on lui présente un compositeur surdoué, un certain Jacques Revaux. En 1967, c'est lui, Jacques Revaux, qui a créé une mélodie dont personne ne voulait au départ, ni Sardou, ni les autres. Écoutez. C'est finalement, vous le savez, Claude François qui la lui prendra et en fera comme d'habitude, avant que la chanson connaisse un incroyable succès international sous le titre « My Way ». Michel Sardou a certes loupé, comme d'habitude, il a néanmoins trouvé son compositeur attitré. Jacques Revaux va bientôt être l'homme derrière les plus grands succès du chanteur. Mais en cette année 1967, on n'en est pas encore là. Le jeune homme peine encore à se faire un nom dans la chanson française quand il sort Les Ricains.
Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie.
On est en pleine période yéyé et mai 68 approche à grands pas. La jeunesse manifeste dans la rue contre la guerre au Vietnam. Un sentiment anti-américain commence à voir le jour. Michel Sardou, lui, dénote. Ça commence. Et avec la chanson « Les Ricains », il prend l'exact contre-pied en rappelant que ce sont bien les Américains, oui, qui ont délivré la France de l'Allemagne pendant la guerre. Cette première provocation ne tardera pas à devenir son style. Mais c'est surtout un coup de pouce de l'histoire qui va faire décoller la carrière de Michel Sardou. Écoutez, à l'époque, le général de Gaulle vient de décider de quitter l'OTAN. Et il n'apprécie pas du tout ce morceau qui rend hommage aux soldats américains tombés sur les plages normandes en 1944. Il fait donc censurer la chanson à la radio. C'est un premier coup de projecteur énorme pour le chanteur qui a 20 ans. Même si pour que le succès frappe définitivement à sa porte, il va falloir attendre encore un peu. Car Michel Sardou a beau s'être fait un nom dans la chanson, il ne vend toujours pas de disque. Si bien qu'Eddie Barclay décide de le mettre à la porte. Oui, la carrière de Michel Sardou dans la chanson aurait pu s'arrêter là. Dire adieu à la chanson, il y pense même sérieusement, Michel. Après tout, il aura essayé. Mais ce n'est pas l'avis de Jacques Revaux, le compositeur, souvenez-vous, qui croit dur comme fer que les nouveaux morceaux qu'il a écrits pour lui sont de l'or en barre. Alors l'auteur de génie prend un risque. Il monte avec le producteur Régis Tallard son propre label, Tréma, qui va rapidement devenir une véritable usine à tubes pour Michel Sardou. On est en 1970, et lassé des chansons trop sérieuses, Michel Sardou et Jacques Revaux tentent un coup de poker. Une chanson de baloche, comme on disait à l'époque. Le texte écrit par Vlin Bugy est un hommage à la France populaire et à ses fêtes de village.
Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien.
Les bals populaires s'écoulent à un demi-million d'exemplaires. C'est le premier vrai carton de Michel Sardou. Sur ce même album, on trouve aussi deux titres qui connaîtront le succès, et Mourir de plaisir, et puis J'habite en France. La carrière de Michel Sardou est lancée, et l'argent finit enfin par rentrer. Mais son premier cachet, Michel ne va pas le flamber dans des voitures de sport, des maisons immenses ou des soirées d'anthologie, ça, ce sera pour après. Non, ce premier cachet, il va l'offrir à ses parents. Fernand et Jackie sont toujours criblés de dettes depuis que leur cabaret de Montmartre a fait faillite 5 ans plus tôt. C'est Fernand lui-même qui raconte, encore tout ému, la scène dans ses mémoires.
Voilà mon Michel, tremblant de joie, son chèque à la main. Quel sera son premier geste? Il court à la banque, va convertir sa fortune, recourt à la maison et me tend, vachement décontracté, mais en forçant un peu sur la décontraction, 1 million de billets de banque. Il n'a jamais su que ce soir-là, sa mère et moi avons pleuré comme deux gosses.
Ce n'est pas encore l'heure des adieux chez les Sardou, bien au contraire. Et Michel va bientôt dépasser toutes les espérances de la famille en devenant, en ce milieu des années 70, une véritable star de la provocation.
Mais la France est aussi un pays où il n'y a quand même pas 50 millions d'abrutis.
On est en 1976 à Paris, en France donc. Le début des années 70 a été faste pour Michel Sardou. Depuis son premier album, il a multiplié les succès, comme La maladie d'amour. Mais c'est surtout sa fibre de provocateur que l'on a retenu jusque-là. Le rire du sergent, où il parodie un officier efféminé, lui a valu d'être accusé d'homophobie.
Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons.
Avec Les villes de solitude, les féministes lui ont reproché de faire l'apologie du viol.
J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer.
Et quand il chante « Les temps bénis des colonies », la chanson, prise au premier degré, lui vaut d'être considéré comme un nostalgique de la colonisation.
Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web, j'avais des ficelles au képi.
Enfin, en cette année 1976, c'est une chanson pro-peine de mort, « Je suis pour », qui crée un tollé en France. Dans la chanson, je précise, Sardou se met à la place d'un père dont l'enfant a été assassiné.
Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour.
Oui, choqué, Sardou aime ça. Il ne s'en est jamais caché.
Être l'homme à abattre me galvanise,
dit-il aux journaux.
Je suis provocateur par jeu. À force d'être attaqué sur des trucs que je ne comprenais pas vraiment, j'ai fini par me prendre au jeu et en mettre un petit peu plus. Je me disais, tu vas en faire une, ils vont être contents.
Sauf que le côté sale gosse de Michel Sardou commence à irriter très sérieusement. Une partie de la presse se demande même s'il faut, je cite, brûler Michel Sardou. Et devant les salles où il se produit en concert, des manifestations s'organisent avec des pancartes Sardou fascistes. Et signe sûrement que les choses sont en train d'aller trop loin, une bombe est retrouvée à Bruxelles, dans la chaufferie d'une salle de spectacle où il doit se produire le soir même. Là, c'en est trop. Le chanteur décidera de mettre fin à sa tournée. Mais au-delà des textes sulfureux et des pauses, sa vie privée choque aussi. On apprend que le chanteur a eu 2 enfants avec 2 femmes différentes en l'espace d'un mois. Sa seconde fille, Cynthia, naît en décembre 73 et son fils, Romain, lui, naît début janvier 74 de sa relation avec Elisabeth Haas, dite Babette. Il l'a rencontrée dans une boîte des Champs-Élysées, c'est son ami Pierre Billon qui lui a présenté et ça a été le coup de foudre. En cette année 76, donc, Michel Sardou, le provocateur, n'amuse plus. Lui-même ne rit plus. Son personnage agace, mais surtout, le chanteur à succès a perdu son principal admirateur. Son spectateur du premier jour, comme il dit, son père Fernand, quitte cette terre sans qu'il ait le temps de lui dire adieu. On est le soir du 31 janvier 1976. Michel Sardou est à Paris. il fait une partie de poker avec ses potes Jacques Revaux et Johnny Hallyday. Le midi même, il a vu son père Fernand en direct depuis Mougins, dans l'émission de Daniel Gilbert. Il a trouvé qu'il avait les traits tirés et qu'il avait l'air fatigué quand il interprétait son plus grand succès, aujourd'hui peut-être. À 65 ans, Fernand est encore sur les routes, toujours en tournée. Cette fois, c'est pour l'opérette L'Auberge du Cheval Blanc qu'il doit jouer le soir même, à Toulon. Fernand est en pleine répétition, quelques instants avant le lever de rideau, quand il sent une violente douleur dans l'abdomen. Michel, son fils, est assis à sa table de poker quand il reçoit un coup de fil. C'est la gendarmerie de Toulon. Son père est mort. Il a succombé à une crise cardiaque. Michel Sardou, pourtant peu enclin à manifester ses émotions, s'effondre. Il écrit « C'est alors que le vide s'installa, une aspiration par le bas. » Sa mère Jackie, elle, est à Genève où elle joue les précieuses ridicules. Il la prévient en larmes. Le lendemain, Michel se rend auprès de Fernand, de ce père parti trop tôt, trop vite. Dans son autobiographie, il raconte
« En me penchant pour l'embrasser sur le front et lui fermer les yeux, j'eus la conviction que le corps que j'avais devant moi lui ressemblait sans aucun doute, mais que ce n'était pas lui. Comment dire ? Comme s'il avait laissé son manteau là et qu'il était sorti. »
Fernand Sardou s'en est allé, sans que son fils ait pu lui dire au revoir. Michel regrettera toute sa vie ses adieux manqués avec son père. Celui dont il était si fier et qui le lui rendait tant. Il reviendra sur cette disparition en 2001 dans Fréquence Star.
Le vrai regret que j'ai, c'est ce que je dis, mais je l'ai dit souvent, c'est de ne pas avoir assez connu mon père, non pas en temps, mais ne pas lui avoir parlé, ne pas avoir eu assez de complicité avec lui. Mais il était aussi timide que moi et aussi sauvage que moi, donc c'était pas aisé.
Les années 76-77 seront un tournant dans la carrière de Sardou. Après la disparition de Fernand, plus rien ne sera vraiment comme avant. Michel décide de mettre de l'eau dans son vin. Et une chanson va mettre tout de suite tout le monde d'accord. Un titre qui va devenir le tube de l'été, je vous laisse écouter.
Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
Après la provoque, Sardou joue maintenant la carte du sexe symbole, du chanteur de charme avec Je vais t'aimer. Il épouse Babette en 1977, la mère de Davy et Romain, et le voilà maintenant qui enchaîne les succès plus consensuels. La Java de Broadway se vend à plus d'un million d'exemplaires, les titres Je vole ou Enchantant sont aussi de grands succès, mais ce n'est rien, rien comparé à ce qui arrive au tout début des années 80. Un raz-de-marée venu tout droit d'Irlande, ou plutôt de Normandie, comme le raconte Bertrand Tessier dans sa récente biographie de Michel Sardou, « Je suis un homme libre ». On est à l'été 1981, chez le chanteur, dans sa maison de campagne, près de Dreux. Une belle villa avec piscine, idéale pour ces journées où il fait très chaud. Lui et ses camarades, Jacques Revaux, Pierre Billon ou encore le parolier Pierre Delanoë, ont pris l'habitude de se retrouver de longs week-ends pour travailler. Sauf que ce jour-là, sur la route, les instruments ont pris un coup de chaud. Alors quand Jacques Revaux sort son clavier, l'ancêtre des synthétiseurs, il sonne bizarrement, presque comme une cornemuse. Jacques est ennuyé, mais Michel, lui, est emballé par ce son qui lui inspire l'Écosse.
« C'est formidable, ça, les cornemuses. On va en faire une chanson écossaise !»
dit-il. Et il ne plaisante qu'à moitié. Oui, mais voilà, l'Écosse, personne ici n'y a mis les pieds. Ni Jacques Revaux, ni Michel Sardou, ni Pierre Delanoë. Internet n'existe pas encore, et le parolier décide donc d'aller faire un tour en ville, histoire de trouver de la documentation. Et il revient avec des prospectus sur l'Irlande. Je rappelle qu'on était parti sur l'Écosse. Qu'à cela ne tienne, ça marchera pareil. Voilà qu'on énumère les noms des régions irlandaises. Et l'un d'entre eux retient leur attention. Les lacs du Connemara. Ça sonne pas mal, ça. Ni une ni deux, la troupe se met en branle, compose et enregistre quelque chose. Au final, cette chanson sur un mariage irlandais fait plus de 6 minutes. Michel Sardou en est convaincu, les radios ne voudront jamais la diffuser. Pour lui, c'est un bide assuré. Mais la suite, vous la connaissez, elle lui donnera tort. Les Lacs du Connemara sera le plus grand succès de toute sa carrière. À partir de ce jour, le titre fera partie de tous ses concerts. Plus encore, ce tube aura un impact culturel majeur. Qu'il le veuille ou non, Michel Sardou vient de marquer de son empreinte la culture populaire française.
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique, Marine a dit oui.
Les années 80 et 90 seront le firmament de la carrière de Michel Sardou. La plupart de ses titres sont des succès instantanés, ses concerts des événements majeurs. La star assume toujours pleinement ses opinions, il les chante même, quitte à régulièrement créer la polémique, que ce soit avec les deux écoles ou le bac G. Michel Sardou continue d'aller où on ne l'attend pas, en abordant des sujets de société brûlants, comme l'homosexualité ou l'islam. Dans Le Privilège, il évoque la difficulté d'un fils à faire son coming out auprès de son père. Et dans Musulmane, il rend hommage à ses femmes croisées en Afrique. L'Afrique, justement, un continent qui lui inspire la nostalgie des adieux éternels, ces lieux, ces gens, ces visages, ces voix qu'on n'oublie jamais.
Afrique, adieu, belle Africa, où vont les eaux bleues du Tanganyika.
On est le 3 avril 1998. Michel Sardou est en pleine tournée et c'est un triomphe. Ce soir-là, il doit jouer à Nancy. La veille, il a reçu un coup de fil. Ou plutôt, un coup de poing dans l'estomac. On lui a annoncé la mort de sa mère, Jackie. Une crise cardiaque. Le midi même, elle déjeunait avec la troupe de son nouveau spectacle avec qui elle devait partir en tournée quelques jours plus tard. Jackie allait avoir 79 ans et elle n'avait jamais décroché. Cette douleur, Michel l'a déjà ressentie 22 ans plus tôt avec la disparition soudaine de Fernand. Sauf que cette fois, c'est lui, Michel, qui est en tournée. Il part pour Paris se recueillir sur le corps de sa mère. Mais c'est un aller-retour rapide. Le soir même, il est sur scène. Aux spectateurs de Nancy, il dira
« Je ne fais pas un exploit. Je fais seulement comme mes parents, mes grands-parents, mes aïeux ont fait avant moi. Pour nous autres, les saltimbanques, la tradition veut que le spectacle ne s'arrête jamais. »
Pourtant, au moment même d'entonner un déchirant « La fille aux yeux clairs », le morceau écrit pour sa mère, Michel n'emmène pas large. Sa voix est voilée. C'est le public qui le soutient en reprenant en chœur le refrain. Michel raconte.
« Quand j'ai chanté cette chanson, il y a eu un silence et un petit garçon est venu me serrer la main. J'étais bouleversé. »
« Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans. »
Comme pour Fernand, Michel Sardou nourrira des regrets de ne pas avoir été là dans les derniers instants de Jackie. Il le confiera quelques années plus tard, toujours à Fréquence Star.
Et le grand, grand regret que j'ai, c'est que je chantais quand ma mère est morte, ce qui fait que je n'ai pas pu être là au dernier moment, et je suis sûr qu'elle avait quelque chose à me dire. Je l'ai entendu, mais je n'ai pas compris. C'est le gros chagrin, ça. J'ai bien entendu qu'elle voulait me dire quelque chose, mais je n'étais pas là.
Avec le départ soudain de Jackie, le dialogue entre la mère et le fils s'est brutalement interrompu. Leur relation était complexe, mais Michel nourrissait, comme avec Fernand, une tendresse infinie pour ce petit bout de femme qui débarquait sans prévenir dans les coulisses de ses concerts avec sa voix tonitruante et à la recherche de son Mimi. À la fois, ça exaspérait Michel, mais ça l'amusait beaucoup aussi. Avec elle, il avait toujours 12 ans, dira l'un de ses fils. Longtemps après la mort de Jackie, il continuera, pendant ses spectacles, à jouer ce sketch qui le mettait en scène avec sa mère. Un peu comme s'il n'était finalement jamais parvenu à lui dire adieu.
Maman ?
Mais pourquoi tu fais cette tête ? Tout le monde me le dit, pourquoi il fait la tête quand il chante ? Et souris. Sois content d'être sur une scène.
Mais tu es dans la salle, maman, où es-tu?
T'occupe pas de moi, travaille.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
Faire durer ses adieux, ou plutôt ne jamais les faire vraiment. Et si c'était ça le secret de Michel Sardou? Continuer à se produire sur scène comme on monte dans une machine à remonter le temps. Pour sentir à nouveau Fernand et Jackie près de lui et convoquer la nostalgie. La sienne, bien sûr, mais aussi celle d'un public qui a grandi, puis vieilli avec lui.
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse.
À 77 ans, le monument de la chanson française clôturera cette nouvelle tournée d'adieu les 16 et 17 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe, à Paris La Défense Arena. Qui sait, ce sera peut-être vraiment la dernière. Deux concerts géants pour le plus grand plaisir des enfants et des adolescents qui sont désormais dans le public aussi.
Mes chers parents, je pars.
En 2014, le film La famille Bélier et ses 7,5 millions d'entrées avaient dépoussiéré l'œuvre de Michel Sardou et beaucoup de Français l'ont découverte ou redécouverte à ce moment-là.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Et si derrière Sardou le provocateur, Sardou le réac, Sardou le polémiste, se cachait tout simplement un immense chanteur populaire, aux musiques et aux textes intemporels, et qui aura toujours su se renouveler, de ceux qui restent dans la mémoire des hommes pendant des générations. Un peu comme son compère, Johnny Hallyday. Et maintenant que le taulier est parti, Sardou ne serait-il pas finalement devenu ce phénix qu'il chantait dans les années 70? Vous savez, cet oiseau maudit, solitaire et perdu, qui renaît continuellement de ses cendres.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Bonjour Pierre Billon, merci d'être avec nous sur RTL.
Bonjour.
C'est qui Pierre Billon, le Sardou ami? Je m'explique, quand vous êtes entre vous le soir, pas en concert justement, comme ce soir en relâche, vous mangez, vous buvez, vous riez, vous parlez cinéma, politique, racontez-moi une soirée entre amis avec vous et Michel Sardou.
Alors, les soirées entre amis, il y en a eu assez peu sur cette tournée, curieusement, parce que on a beaucoup roulé. Enfin, on a fait énormément de concerts et beaucoup de kilomètres. Il y en a eu une très très sympa. Je crois que c'était à Limoges, si je me rappelle bien, où Michel a fait même le tour du marché. Ce qui est assez rare, c'est le marché de Noël de Limoges. Il a été faire le tour du marché. Il a été très sympa, on a dîné ensemble. Il y a assez peu, Michel est quelqu'un de raisonnable, alors qu'il faut être, ça fait pas très rock'n'roll, mais c'est le cas. C'est une tournée assez douce ou totalement dénuée de d'alcool et de choses comme ça. Donc, voilà, c'est une tournée assez cool. Donc, les tours d'entre amis, on parle un peu de politique assez peu. On gueule un peu sur ce qui se passe sur, sur les chaînes d'infos à droite à gauche. Il y a peu, on parle beaucoup de ce qu'on va faire.
Vous jouez aux cartes?
On parle beaucoup.
Un petit peu.
Pardon, non, je joue pas aux cartes. Non.
Même pas un petit poker. Histoire.
Non, je suis désolé, on fait pas de poker, mais on le fera si vous voulez, si ça vous fait plaisir, on le fera.
Je veux bien jouer avec vous.
Non. Il s'est beaucoup investi dans ce spectacle cette fois-ci, hein, vraiment. C'est-à-dire, ce spectacle, quand on dit que je suis directeur artistique, c'est très gentil. D'abord, je suis pas tout seul à avoir fait cette chose avec lui. Et Michel, c'est vraiment très, très, très investi. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé pendant 4 mois en studio avant, ensemble. Mmh. Il a peaufiné le costume complètement. On lui a fait un costume tel qu'il le voulait, lui. Donc, ce qu'il voulait, c'est que c'est à la fois surprendre les gens par des nouvelles chansons ou au moins par les intros des chansons, de façon à ce que ça, les gens n'aient pas la même chose qu'ils ont eue depuis des années. Ça, on a réussi à le faire aussi avec les images, bien évidemment. Mais peut-être qu'au fur et à mesure de la tournée, ce qui est le cas en ce moment, on change des choses. De façon à ce que, vous savez, les gens, ils adorent les collecteurs maintenant.
Oui.
Alors peut-être que celui de Lille, celui qui a écouté un spectacle à Lille et a entendu, par exemple, La fille aux yeux clairs, qui est une sublime chanson à Lille, il l'a entendu avec des violons. Et ben, s'il vient 2 jours après, il l'entendra avec un trombone. Et puis peut-être que dans une semaine, il l'entendra avec des chœurs.
Ah ouais, c'est étonnant ce que vous racontez, Pierre, parce que c'est vraiment, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous connaissez tous depuis toujours, vous êtes ultra rodé, le succès est immense, il n'est plus à faire, et pourtant, il y a quand même encore un soin ultra minutieux, si je vous écoute et je vous comprends et je vous entends, à faire, à vouloir surprendre le public, à vouloir aller au bout du bout du bout, quoi.
Exactement. Je pense qu'il veut pas les lasser. Par exemple, les petits speeches très 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 drôles qu'il fait entre chaque chanson.
Oui.
Il s'en excuse presque de dire la même chose. Il va dire, oh, j'ai dit ça hier. Bon, bah, j'ai envie de dire autre chose. Voilà.
Oui, oui.
Donc, il veut qu'il y ait une découverte. Je pense que Michel est quelqu'un qui ne veut pas admettre que Internet existe et que les réseaux sociaux existent. Mais il se trouve que les réseaux sociaux vont faire qu'un lundi ne sera pas pareil qu'un vendredi. Ça ne sera pas le même spectacle. Il n'aura pas dit la même chose.
Oui.
Et je pense qu'il veut le faire au niveau des chansons également. Récemment, il a, par exemple, sur La fille aux yeux clairs, on a changé. Avant, c'était des violons. Maintenant, il y a un trombone. Parce qu'il a eu envie de ça soit un peu différent. Alors, peut-être lui va interpréter différemment la chanson. Donc, c'est ça, les discussions du soir, c'est vraiment ça. Hein.
Vous
aller au bout d'un spectacle vraiment peaufiné. Voilà.
Ouais. Vous vous connaissez depuis toujours, depuis votre tendre enfance. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre à tous les deux? Est-ce que dès le départ, c'était votre copain ou pas trop? Vous vous êtes un peu cherché? Comment ça s'est passé?
Non, en vérité, on s'est connus très très jeunes parce que ma maman et ses parents à lui étaient dans la même comédie musicale.
Ouais, deux enfants de la balle, ouais. On connaît vos histoires respectives.
Tous les deux. On s'est retrouvés dans les répétitions, tous les deux habillés d'une façon grotesque, tous les deux, évidemment, pour l'époque. On a des chaussures pointues blanches. Et à partir de ce moment-là, on est devenus amis. Comme quoi, on peut être amis avec des choses assez insignifiantes, par exemple, des chaussures blanches, par exemple, pointues. Et donc, après, on est devenus amis. Et puis après, on s'est beaucoup retrouvés à partir des années 68, quand Michel est rentré de l'armée, moi aussi. Et à ce moment-là, on est devenus très potes. Et là, on était tout le temps ensemble. Voilà. C'était le début de sa carrière et Michel n'avait pas encore l'aura qu'il a eu par la suite et les tubes qu'il a eu par la suite. Mais on a fait beaucoup de choses ensemble à ce moment-là. Ouais.
Je vais parler de quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, Pierre, c'est Johnny Hallyday. Il voulait aussi, Michel, être acteur comme Johnny Hallyday. Ça leur a réussi finalement à tous les deux de cette carrière manquée.
Pas trop mal, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ces deux personnages étaient des personnages incroyables. Quand tu penses que le premier rôle de Johnny Hallyday, c'est dans Les Diaboliques de Clouseau, c'est quand même un truc de fou.
Oui, c'est dingue. Ouais.
David, il est dans Les Diaboliques, et le premier rôle de Michel sérieux, c'est dans Paris brûle-t-il. Et ça paraît fou. Ils sont tous les deux juste figurants l'un et l'autre. Seulement, ils sont figurants dans deux monstres.
Ouais.
C'est incroyable. C'est pas la chance. C'est vraiment, tu vois, c'est la langue d'or qui est au-dessus de leur tête, quoi. C'est quand même très exceptionnel.
C'est clair.
D'ailleurs, il y a 5 ans, on a fait une jolie chanson là-dessus sur le figurant, où justement disait Michel à la fin de la chanson, disait celui qui tombe du camion et qu'on fusille dans Paris brûle-t-il, c'est moi, bien sûr. C'est ça.
J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Laetitia Hallyday. Johnny n'a aucun regret sur sa carrière d'acteur. Il a été là où il a eu envie d'aller. En tout cas, c'est ce qu'elle nous expliquait, nous racontait. Est-ce que c'est pareil pour Michel ou est-ce qu'il a un peu de regret? Est-ce qu'il aurait aimé être un plus grand acteur de cinéma ou de théâtre qu'il a été?
Je pense qu'il a plus la volonté d'être un comédien de théâtre, ouais. Je pense. Un acteur de théâtre. Pourquoi? Ça aussi, ça vient aussi de la famille. Hein. Pas oublier que Michel, de toute façon, même si c'est une famille rapportée, Michel est dans la famille Perrier.
Mmh. Oui.
Or, Perrier, c'était François Perrier. Il y a un moment ou un autre, ayant épousé Anne-Marie, qui est la fille de François, il y a un moment, il veut se prouver là-dedans aussi. Je comprends, c'est un très très bon comédien. Il a fait ses armes. Et alors, c'est assez exceptionnel de voir Michel qui est un travailleur pour la chanson, mais pas un travailleur forcené. Faut bien le dire. Hein. C'est pas Jean Valjean de la chanson.
Ouais.
Mais au niveau du théâtre, d'un seul coup, c'est un monsieur qui va s'apprendre 2500 pages.
Il est capable de devenir un bourreau de travail pour le théâtre.
C'est un bourreau de travail. Et c'est la même chose chez Hallyday, rappelez-vous bien.
Ouais.
C'était pareil.
Absolument.
Johnny, quand il voulait faire un film, à 6h du matin, il était réveillé, pof, il galait et tout ça.
Ouais.
C'est vraiment spécial. C'est une volonté incroyable de faire ce métier qui est plus compliqué que le leur. Qui est moins économiquement, qui est moins intéressant et qui est beaucoup plus compliqué que le leur. Que ce soit Johnny ou que ce soit Michel, ils arrivent sur scène, ils disent bonjour, ça y est, pof, c'est terminé.
Et c'est parti.
Il suffit qu'ils leur disent vous allez bien, c'est fini, le public atteint. Alors que le théâtre, c'est pas la même, hein. Faut se goinfrer le truc quand même.
Alors justement, reparlons de la scène. Vous allez faire deux dates dans cette salle, Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. Vous les abordez comment ces deux soirées?
Alors déjà, on l'aborde en rond. Alors ce qui est assez exceptionnel, parce que Michel a voulu faire une scène en rond.
Et oui, pour bien préciser pour nos auditeurs, voilà, scène centrale.
Alors,
et
c'est
donc
une scène centrale, ce qu'on appelle une scène centrale.
À 360.
Et donc, voilà, exactement. C'est-à-dire que scène centrale, c'est assez compliqué, parce qu'il faut que tu travailles... Faut que tu travailles en rond, parce que sinon, le premier couplet de ta chanson, il voit ton dos, le deuxième couplet, il voit un morceau de tes pieds, le troisième, il voit tes cheveux. Donc, il faut vraiment tourner très sérieusement et t'attaquer à tout ce qui est, tous ces gens qui sont autour de toi et qui ont le droit autant que
bien
celui
sûr
qui est en face de te voir.
De te voir. Ouais.
Alors, il a voulu ça. Alors, c'est vachement courageux parce que nous, on vient de faire, on va dire, 40 dates avec une scène régulière, normale, et tous nos réflexes, que ce soit les réflexes de Michel ou les réflexes des gens qui travaillent avec nous, les musiciens, les choristes et tout ça, ont des réflexes en façade. Donc maintenant, il va falloir que ces réflexes, on les applique à la périphérie, quoi, en gros, voilà.
Ouais, tout à fait. Donc c'est challenging. Et ça représente quoi pour l'équipe, ces deux soirées avec une salle dont la dimension est hors norme, hein? C'est quand même... Rassurez-moi, vous flippez un peu quand même, malgré tout ce que vous avez dans les jambes.
Évidemment qu'on flippe. Mais c'est pas tellement la dimension de la salle, parce qu'on a fait deux énormes salles quand on était au Québec. On a fait Montréal, qui était une énorme salle, qui faisait d'énormes patinoires. Donc c'est pas tellement la notion de la taille de la salle qui va être compliquée. C'est la notion de se dire, d'un seul coup, on va pas travailler pareil. Et on a que deux jours pour répéter. Alors, ça va être sublime. Les images, puisque vous avez vu le spectacle à Lille, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'images et beaucoup de 3D.
Absolument.
Alors, ces images-là, elles vont être non plus en façade, mais elles vont en périphérie complètement. Par exemple, le cheval, je dévoile rien parce que vous avez vu.
Ouais.
Le cheval, notre cheval, il va tourner tout autour de nous.
Ouais.
Voilà.
Non, ça va être magnifique.
Michel va avoir des réflexes qui sont, puisqu'il travaille lui avec le cheval, puisqu'il fait des bisous au cheval, etc. Il va quand même falloir, on a que deux jours de répète.
S'ajuster un petit peu.
Vendredi, hein.
Bon, ça va être parfait.
On flippe, évidemment qu'on flippe, heureusement qu'on flippe.
En cette année 2023-24, là, en cette tournée, il a jamais douté, Michel, qu'il remplirait toutes les salles par lesquelles il passerait.
Il doute avant.
Ah ouais, quand même, toujours alors.
Tout le temps, il va nous dire mais pourquoi il viendrait me voir. Moi je leur dis c'est assez logique. Moi je dis que c'est logique. Moi je trouve ça logique qu'il soit là,
ouais.
Parce que c'est incroyable les mamans qui emmènent leurs enfants. Alors heureusement on leur met des casques sur la tête parce que c'est tellement fort. Mais les mamans amènent leurs enfants. Il y a vraiment une génération.
Il y a une transmission.
Quand il a fait quand il a fait cette fameuse chanson de 7 à 78, 7 à 77 ans, ouais, il avait complètement raison. Parce qu'on a un public qui est de 7 à 77 ans.
Mmh. La comédie
musicale. Même un peu plus et un peu moins, à mon avis.
La comédie musicale Je vais t'aimer, on dit que ça a été le déclic pour repartir justement en 2023, c'est vrai ?
Ça en fait partie, ouais, ça en fait partie, certainement. Certainement. Et parce que c'est la première fois où je l'ai vu ému, étant dans le public et recevant toutes les chansons qu'il avait faites et qu'il avait forcément certaines fois oubliées, on va dire. Et moi, j'ai trouvé que cette comédie musicale, elle était très intelligente parce qu'elle allait chercher dans des chansons de Michel, qui étaient des chansons justement que les gens, ou soit n'avaient pas compris, c'était souvent le cas, ou avaient oublié. On parle des chansons, par exemple, Le Privilège, cette chanson formidable, la chanson il a eu fait beaucoup de chansons qui sont des chansons très très pointues et que les gens avaient peut-être oublié. La comédie musicale les a remises devant.
Oui, a permis de les redécouvrir ou de les faire revivre, tout simplement. Et elle en a dit quoi alors, Anne-Marie, sa femme, quand il a dit « Allez, en 2023, j'y retourne », elle était surprise ou pas vraiment?
Non, Anne-Marie a été très, très, très... je crois qu'alors, c'est le marché de Deauville, pour vous dire la vérité. Je vais tout raconter la vérité.
Bah oui,
un jour, elle rentre du marché de Deauville. Elle avait été faire les courses au marché de Deauville, comme tout le monde. Et en rentrant, elle écoute une chanson de Michel qu'elle ne connaissait pas, je crois.
Ouais.
Elle est rentrée, elle a dit « Cette chanson est fantastique » et tout ça. Décidément, il faut que tu rechantes. Et puis, à ce moment-là, on s'est tous appelés. Et puis, Michel a dit « Bon, ben, je ne sais pas si j'en suis capable. » Voilà, il est tout à fait honnête pour ça. Et donc, on s'est retrouvés pendant 2 mois, 3 mois en studio à chanter, à travailler avec un coach vocal et à retravailler les titres en fonction de ce qu'il voulait. Donc, c'était vraiment une volonté d'Anne-Marie à la base, de Michel qui s'est dit « Pourquoi pas, j'ai envie d'aller au combat. » Et pour ce faire, il a dit, en suis-je capable? Et puis au bout de 3 mois, on s'est aperçu qu'il en était capable. Voilà.
Et dès le premier soir de cette nouvelle tournée, il était plus que convaincu, c'était bon, c'était reparti.
Ah oui, dès le premier soir, dès le premier soir. Et tu sais, on a eu du mal à lui faire, à cette fameuse image en 3D, c'était pas toujours simple, parce que Michel n'avait pas l'habitude de ça. Donc il fallait travailler d'une façon un peu différente, il fallait travailler, sachant que tu travaillais derrière un tulle. Donc Michel s'est dit, est-ce qu'ils vont me voir, est-ce qu'ils vont pas me voir, est-ce que c'est pas trop d'images? Mais finalement, ça s'est bien passé. Sa volonté de base, c'était de faire en sorte que les spectateurs du premier rang soient au milieu des moutons.
Ouais.
Ça, c'était son obsession, et finalement, les spectateurs du premier rang sont au milieu du
bouton. Et c'est tout à fait réussi, je confirme, puisque j'ai vu le spectacle.
Vu les moutons.
J'ai vu les moutons.
D'accord.
Et le cheval.
C'est important pour lui.
Et le cheval. Qu'est-ce que vous dites tous les deux à Pierre Billon, Michel Sardou, maintenant que vous voyez que ça fait 50 ans que ça dure et qu'il y a eu derrière Michel 100 millions d'albums vendus?
Ouais, c'est une grande fierté.
Ouais.
Très, très grande fierté. Bien sûr, avant tout, c'est une notion de fierté. Et tout à l'heure, vous me demandiez si on était surpris. Il y a des soirées, il me surprend toujours. Voilà. Mais encore une fois, c'est parce qu'il refuse la routine. Quand tu refuses la routine, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et effectivement, il nous fait des choses différentes. Et comme je vous dis, ce qui est amusant avec cette tournée, c'est le fait de changer au fur et à mesure les titres. Il y a des titres qu'on a commencé il y a maintenant 2 mois, on les change considérablement. Encore une fois, pour le côté collector, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Et, les gens vont s'appeler en disant « Je l'ai vu à Lille, il a fait ça », et autres « Ah bah non, moi j'ai vu à Strasbourg, il a fait autre chose ».
Il a fait autre chose, ouais.
Voilà, c'est très amusant pour nous de faire ça, voilà.
De la colère des agriculteurs aux prochaines élections européennes, aux lourdes accusations de femmes dans le cinéma ou contre d'anciens réalisateurs, voilà, en ce moment l'actu c'est ça aussi la société d'aujourd'hui. Il en parle, il s'insurge toujours autant, Michel Sardou.
Oui, il en parle sur scène un petit peu.
Ouais.
Il parle de l'amour, il parle de cette notion de l'amour. Il dit des choses très très amusantes, mais je ne vais pas tout révéler non plus. Mmh. Enfin, il dit des choses très amusantes en disant qu'effectivement, de nos jours, si tu mets la main sur la main d'une jeune fille, tu risques la pénale. Donc c'est ça, il parle un peu de ça, voilà.
Il continue à être ce qu'il est et ce qu'il a toujours été avec l'actualité d'aujourd'hui.
Il en parle pas trop. Et justement, il a la décence. Il est complètement pour les agriculteurs, bien évidemment. Et il quitte Paris parce qu'il trouve que Paris est de plus en plus moche, quoi. C'est tout. Mais à part ça, c'est le peu de choses qu'il évoque.
Il a poussé médiatiquement, publiquement quelques coups de gueule encore jusqu'en 2019, 2020, 2021. Puis il s'est un petit peu arrêté. Est-ce qu'il se dit, allez, j'arrête tout ça? Ou parce que c'est quand même lui, finalement, d'être ce personnage clivant, réac, le fameux réac Michel Sardou. Donc, il se calme un peu parce qu'il en a un peu marre de jouer ce rôle-là. Pourquoi?
Oui, la polémique. Il voulait plus aller au combat, peut-être pour ça. Ouais. Mais là, il a quand même remis des chansons. Qui vont au combat quand même.
Ouais, tout à fait. Sur scène, par contre, rien ne change.
Ah non, Michel est quand même le premier à avoir fait une vraie très très belle chanson contre l'homophobie. C'est le premier. Mm. C'est le premier qui a fait une très très belle chanson pour le mariage des prêtres. Mm. C'est le premier qui a fait une très très belle chanson pour la pollution qui s'appelait J'accuse. Il a fait énormément de choses que les gens peut-être ont zappé. Tu vois, ils ont zappé à cause de la forme et non pas à cause du fond. Mmh. Dans le cas de Michel, son côté réac, c'est la forme, parce que effectivement, parce qu'on est tous bien habillés, parce que on est un grand orchestre, parce qu'on fait des choses extrêmement symphoniques, extrêmement brillantes, et que des fois tu oublies le texte, quoi, tu oublies ce qu'il a raconté dans l'histoire, quoi.
Et malgré tout, vous pensez qu'en 2027, à la prochaine élection présidentielle, si on lui posait la question, il serait prêt à dire publiquement pour qui il va voter ?
Non.
Non, il ne le dira plus.
Il ne le sait pas. Il ne le sait pas, il n'en sait rien du tout.
Ouais.
Non, je pense qu'il n'en sait rien du tout. Je pense que ce jour-là, il analysera lui-même ce qu'il a envie d'analyser. Il votera selon son cœur. Mais Michel n'est ni de droite ni de gauche, bien au contraire.
Non, tout est dit. Et côté télé, qu'est-ce qu'il pense, parce que c'est ça cartonne en ce moment particulièrement, qu'est-ce qu'il pense de tous les The Voice, Starac et compagnie? Il trouve que c'est des bons laboratoires à chanteurs ou pas?
Franchement, je crois qu'il ne regarde pas la télé. Il regarde ça assez peu. Je ne veux pas me mettre dans la tête ni dans la voix de Michel. Non, je crois qu'il regarde assez peu ça. Il y a des choses qui lui plaisent. Il y a des gens qui lui plaisent. Il y a des voix qui lui plaisent. Michel aime bien les voix quand même qui chantent bien, quoi.
Mm.
Les beaux textes et les gens qui chantent bien. Il y a des choses qui lui plaisent, bien sûr. On devait faire une grande émission de télé, là, ce qu'on fera ou qu'on fera pas, d'ailleurs, une grande variété un jour. Et effectivement, il y a plein de gens qui voulaient dans cette émission et qui sont de la nouvelle génération.
Publiquement, il a été très, très élégant, je dois dire. Mais sur l'histoire de Juliette Armanet et des lacs du Connemara, dans le fond, il a quand même été scotché, non? De vous à moi.
Il a été très gentil. Il a été vachement gentil, non?
Oui. Mais ça, c'est publiquement. Mais au fond, côté coulisses, les bras lui en sont tombés ou pas? Comme la majeure partie des gens?
La vérité, je vous jure qu'il s'en foutait complètement.
Ouais.
C'est affreux, mais c'est vrai. Hein. Mm. Je dis la vérité, il s'en foutait complètement. Et en plus, il pense que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Hein.
Ouais.
Ça fait vraiment partie de son truc. Heureusement, si Michel avait le malheur de critiquer quelqu'un qui le critique, ce serait pas du tout dans son mode de fonctionnement.
Ce serait pas du Sardou. Oui, c'est vrai.
Ben non, ça serait pas du Sardou. Il va pas aller attaquer cette jeune fille qui a dû se gourer, qui a dû se faire certainement à l'interview où elle dit une connerie, quoi, ça arrive. Hein. Mm. Voilà.
Sardou répète souvent d'ailleurs que, alors oui, parfois on a dit qu'il était clivant, mais s'il avait vraiment été un méchant, les gens ne seraient pas dans les salles. Il le répète souvent ça. Et on précise que, donc, cette dernière tournée que vous êtes en train de vivre avec lui est complète absolument partout. Pierre Billon, ouais. Finalement, ceux en qui il aura eu le plus confiance de toute sa vie à la fin, Sardou, c'est son public?
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est la première fois qu'on fait une tournée où quand le public le dit on t'aime, en parlant de Michel, oui. lui, il leur répond « Je vous aime aussi
ouais. ».
Voilà. C'est peut-être la première fois que j'entends ça. C'est aussi la première fois qu'il dit « Je vous remercie
ouais. »
quand ils l'ont applaudi. C'est, on a fait des, il est très, très, très près du public, là. Très, très près. Vous savez, le mash-up qu'on a fait, puisque vous avez vu le spectacle à Lille,
ouais.
ce mash-up, il l'a vraiment fait pour que le public intervienne. D'ailleurs, ce mash-up, c'est un triomphe incroyable.
Oui, absolument.
Vu. Cette espèce de...
On pourrait revenir voir le concert juste pour ce moment-là, en vrai.
Ah bah, c'est bien, je vous remercie.
C'est vrai.
Je veux dire, ça a été du boulot de se faire. Hein. Vraiment, ça a été du boulot. Ça.
J'imagine.
Parce que c'était compliqué pour tout le monde, mais c'était tellement formidable. Je trouve formidable aussi Tennessee. Je trouve ça formidable.
Absolument. C'est
je trouve
très
formidable de pudeur. C'est une espèce de pudeur formidable qu'il a eu de dire bon, je fais un clin d'œil à mon pote quand même, même si sur la fin, ce n'est plus mon pote malheureusement, mais dans sa tête et là-haut, ça sera toujours son pote.
Oui, et on sent l'émotion sur scène à ce moment-là, clairement. Alors évidemment, entendez ma question, Pierre, je ne pense pas du tout mal, mais il raconte souvent de son père que son père est mort sur scène. Est-ce que c'est ce genre de fin aussi dont il rêve, Michel Sardou?
Je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. Je pense pas. Je pense qu'il doit être, comme moi. Il doit penser qu'on est invincible, c'est possible.
Ouais.
Ben, j'espère. Mais non, je pense pas qu'il veuille finir comme ça.
Vous êtes des invincibles.
On était en tournée, hein. Tu sais, les Américains disent les bons musiciens ne meurent jamais, ils traînent simplement de bar en bar, tu sais. Donc un mec comme Sardou ne mourra jamais, il traînera simplement de fest-nose en fest-nose et de fin de collège.
Alors Pierre, du coup, je finis en vous disant, je suis venu vous dire salut, jusqu'à la prochaine fois. Merci. Merci
salut,
Pierre Billon.
Je vous remercie de m'avoir reçu. Voilà.
C'est moi qui vous remercie et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs à Paris, La Défense Arena, les 16 et 17 mars et bien sûr dans toute la France.
Volontiers, on vous verra à ce moment-là.
Avec plaisir.
Venez nous dire bonjour là par contre.
Je viendrai, c'est promis. Merci Pierre Billon.
Merci beaucoup.
À bientôt sur RTL, vous êtes le bienvenu dans notre station quand vous voulez aussi.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce confidentiel. Merci à l'équipe d'Animatouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon et Marie Conquis à la programmation. Tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Vous pouvez les écouter quand vous voulez et autant que vous voulez.
RTL Confidentiel. Ophélie Meunier.